Journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal international. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Dans l'actualité, le rideau est tombé à Paris après un été sous le signe du sport et de l'olympisme. Une parenthèse enchantée saluée de façon unanime. Hier soir, près de 8 millions de téléspectateurs ont regardé la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. L'un des principaux opposants vénézuéliens contraint à l'exil, mais son combat continue. Edmundo González Urrutia promet de continuer la lutte pour la liberté et le rétablissement de la démocratie. Il l'a dit à son arrivé en Espagne où il a demandé l'asile. L'Iran accuse Israël après une série de frappes qui ont fait 14 morts la nuit dernière en Syrie. Téhéran dénonce une attaque criminelle. Dans ce journal aussi, un durcissement de la politique migratoire du Canada. Les délivrances de permis de travail temporaires sont restreintes. À l'image du temps automnal arrivé à Paris, c'en est maintenant fini d'un été de jeux. Les 17e Jeux paralympiques donc ont pris fin hier soir au Stade de France. C'était lors d'une cérémonie de clôture réchauffée par la musique électro. Le tableau des médailles est sans surprise. C'est la Chine qui triomphe devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France, elle, finit 8e avec 75 médailles, dont 19 en or. Un bilan en net progrès par rapport aux précédents Jeux. Il permet au parasport français de rivaliser avec les meilleures nations. Christophe Diremsian.
20 médailles de plus qu'en 2021, davantage de titres, le paralympisme français a tenu son pari de réintégrer le top 8 mondial. Derrière le résultat, des budgets en hausse et une préparation professionnelle depuis plusieurs années, mais pas de quoi encore tenir tête à deux récents pays hôtes, la Grande-Bretagne et le Brésil, respectivement 2e et 5e du tableau d'honneur, qui profitent déjà d'un effet jeu, selon Claude Onesta, le manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.
Ils bénéficient de tout ce qu'ils ont construit lorsqu'ils ont été pays organisateurs. Et ce nouveau socle sur lequel vous travaillez, va continuer, on l'a dit, à produire des pratiquants chez les plus jeunes, chez les gens qui ont des accidents de vie et qui sont adultes. Donc ça veut dire que vous augmentez votre base et vous aurez demain des équipes encore plus performantes.
Passer un cap supplémentaire, c'est rajeunir, féminiser. Mais d'abord, estime Michael Jeremias, le chef de mission des Bleus, faire en sorte que la lumière ne s'éteigne plus sur les parasportifs et leur discipline.
C'est qu'en fait, maintenant, il y a un suivi dans le soutien, mais c'est pas qu'une question d'argent. Juste un moment que, en fait, on retourne pas aux oubliettes avec ces athlètes-là, et notamment dans des sports plus confidentiel ne soit pas abandonné. Et puis moi, je rêve que les parasports soient enseignés en milieu ordinaire. C'est pas plus con d'apprendre à nos enfants de faire du basket fauteuil que de sauter le plus loin possible dans un bac à sable. Donc moi, je vais être assez occupé dans les semaines qui viennent pour justement s'assurer du service après-vente.
Le milieu paralympique attend désormais du prochain gouvernement des engagements forts pour que Los Angeles 2028 soit encore mieux réussi sur le terrain que Paris 2024.
Paris 2024, justement, une référence pour tous les futurs Jeux paralympiques aux yeux d'Andrew Persons. C'est le président du Comité international paralympique. Dans son discours hier soir, il a salué les Jeux paralympiques les plus spectaculaires de tous les temps. Andrew Persons a aussi réclamé que ces Jeux soient suivis de changements d'attitude afin de rendre notre monde plus inclusif. Un extrait.
Inspiré par le sport, je vous demande à toutes et tous de vous montrer inspiré par votre engagement en faveur du changement. L'appréciation et les applaudissements doivent être suivis par l'acceptation et l'action. Un changement d'attitude doit conduire à un changement d'opinion. Les mots d'éloge doivent être remplacés par des mots de conviction. Les obstacles doivent devenir des opportunités. Nous avons tous la responsabilité collective de profiter de l'élan des Jeux paralympiques de Paris 2024 pour rendre ce monde plus inclusif.
Andrew Persods, président du Comité international paralympique. Depuis l'Espagne, il appelle à continuer la lutte pour la démocratie dans son pays. Edmundo González Urrutia, l'opposant vénézuélien contraint à l'exil, a dû fuir pour préserver sa liberté et même sa vie, affirme la chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado. Ce départ forcé est un coup dur pour l'opposition qui tente de maintenir la mobilisation contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Dans les rues de la capitale Caracas, cette fois, les avis sont davantage partagés. Reportage de notre correspondante Alice Campagnol.
C'est la fin de la saison pour cette pièce de théâtre bouffon, avec comme dernière scène celle des Nundo González Urrutia, son personnage principal faisant ses adieux.
Pour Tarek William Saab, le procureur de la République du Venezuela, l'asile d'Edmundo González signait la fin de l'opposition, dont les péripéties sont suivies de près depuis plus d'une année au Venezuela. Pourtant, ses partisans voient les choses autrement, comme Ezequiel Fermín.
C'est stratégique de partir, car ici, il est très menacé. À quoi servirait-il enfermé ici ? À l'étranger, il sera plus utile.
Mais tous n'ont pas l'optimisme de ce père de famille. L'annonce du départ de l'opposant en a démoralisé plus d'un, aujourd'hui déçu et sans espoir, comme Anaïs.
Je suis triste car j'avais beaucoup d'espoir avec cette opposition. Et maintenant, on ne sait pas quels sont les plans. Que peuvent-ils faire en dehors du pays? C'est vraiment triste.
Après ce départ, les supporters de l'opposition seront-ils toujours aussi mobilisés dans la rue comme ils l'ont été ces dernières semaines? Rien n'est moins sûr. La dirigeante Maria Corina Machado a pourtant affirmé avec certitude qu'Edmundo González Urrutia sera bien investi président le 10 janvier prochain. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Le directeur de la police du Salvador meurt dans un accident d'hélicoptère. Mauricio Arriaza était une figure dans la lutte contre les gangs armés. Il est mort dans cet accident présumé alors qu'il ramenait un fugitif livré par le Honduras. Le président salvadorien a annoncé l'ouverture d'une enquête. RFI vous en parlait il y a une semaine. Le Canada a maintenant mis fin à sa politique permettant à les étrangers munis d'un visa de visiteur de demander une fois sur le sol canadien un permis de travail temporaire. En 2020, la mesure avait été prise pour aider les voyageurs bloqués à cause de la pandémie de Covid et ceux dont le visa de travail était arrivé à expiration mais qui ne pouvaient pas quitter le Canada. La fin de cette politique en déçoit plus d'un. Le Canada étant devenu ces dernières années l'une des premières destinations prisées par les étudiants ou les travailleurs africains souhaitant s'expatrier. Amélie Tullet.
Salim, un prénom d'emprunt, digère encore avec amertume ce changement de politique.
Mon plan, mon projet d'immigration pour le Canada s'est littéralement effondré comme un château de cartes.
Chauffeur à Douala au Cameroun, ce père de 4 enfants est arrivé en avril au Canada avec un visa visiteur, se fixant 6 mois pour trouver un travail.
Et c'était la possibilité que j'avais de m'installer, de faire venir ma famille. Le visa qui prend moins de temps à l'obtenir, c'est un visa touristique. Tu travailles, par la suite, tu peux appliquer pour demander une résidence permanente.
Ce plan a volé en éclats. Salim va devoir rentrer au Cameroun. Des espoirs déçus et des questions, Christian Yopa en reçoit beaucoup depuis une semaine. Le fondateur de Vision Canada Immigration reconnaît que le programme a permis à des hôpitaux canadiens de recruter ces dernières années une main-d'œuvre peu qualifiée, mais ce programme n'était pas destiné à durer.
Dans les faits, en réalité, j'aimerais rappeler à tout le monde que c'était l'exception en fait de pouvoir transformer un visa visiteur en visa de travail. Ce n'était pas la règle. Aucun autre pays au monde ne le fait. Il y avait déjà beaucoup de moyens de venir au Canada et ça existe toujours.
Des procédures plus longues et à l'issue incertaine, mais pour Christian Yopa, le Canada faisant face à une pénurie de travailleurs dans des secteurs comme le bâtiment restera une terre d'immigration.
Amélie Tullet, l'Iran accuse Israël après des frappes qui ont fait 14 morts en Syrie. Téhéran parle d'attaques criminelles. Enfin, direction l'Irak où le Premier ministre entend poursuivre son travail à la tête du gouvernement. Il l'a dit dans une allocution retransmise hier soir à la télévision. Il ne renonce pas alors pourtant qu'il est confronté au premier scandale depuis son arrivée au pouvoir. Une affaire d'écoute téléphonique impliquant au moins un membre de son cabinet. Correspondance à Bagdad de notre correspondante Marie-Charlotte Roupi.
En direct à la télévision publique irakienne, le premier ministre Mohamed Chiaï Soudani a voulu afficher l'image d'un gouvernement inébranlé par le scandale de l'été. Le mois dernier, 7 personnes ont été arrêtées dans une affaire d'écoute téléphonique qui aurait espionné des parlementaires dont des membres de la coalition chiite majoritaire au Parlement. Problème pour Mohamed Chiaï Soudani, dans la liste des suspects se trouve l'un de ses conseillers. Le Premier ministre, qui a annoncé diligenter une enquête fin août, n'est pas revenu directement sur l'affaire lors de son discours, mais a évoqué des tentatives répétées de déstabilisation de son gouvernement avant d'affirmer que les personnes utilisant leur position pour faire du chantage ou violer la loi seraient menées devant la justice. Certains observateurs ont déploré un discours qui visait uniquement à redorer le blason du gouvernement. Un remaniement ministériel a été annoncé, mais il a été assujetti à la désignation fonction d'un président du Parlement. Le poste est vacant depuis bientôt un an pour cause de blocage politique. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad RFI.
Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir écouté. Il est 11h10, pratiquement ici à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure de retrouver Caroline Paré. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup Gilles Moreau.